Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de débats et d'échanges. Et ce soir, on s'intéressera au grand plan de vaccination anti-Covid. Êtes-vous prêt, vous, à vous faire vacciner? Car cette fois, ça y est, c'est parti. 1 million de personnes pourront le faire dès janvier, 2 millions en février, 14 millions au printemps. Mais la France est-elle prête pour assurer cette incroyable logistique? On posera la question à Brigitte Autran, elle est membre du comité scientifique sur les vaccins. 18h30, le débat des grandes voix. Emmanuel Macron face aux jeunes. Grande interview sur le média social Brut. A-t-il convaincu? On vous dira tout. 19h15, le club des idées. Coup de cœur ce soir d'Éric Emmanuel Schmitt à Valérie Giscard d'Estaing. Et puis le grand débat, 19h20. Faut-il interdire les véhicules hybrides? Ils seraient beaucoup plus polluants qu'on ne le pense. On en parlera avec nos invités. D'abord l'info avec le journal présenté ce soir par Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Julien.
Il est 18h et vous êtes bien à l'écoute d'Europe 1.
Je peux vous dire, il y a des violences policières, si ça vous fait plaisir que je le dise. On ne va pas jouer ni oui ni non. Mais je n'aime pas donner crédit à un concept.
Emmanuel Macron et les violences policières. Le président l'admet du bout des lèvres, mais dénonce ce qui est devenu un slogan, selon lui.
C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Est-ce que c'est dur de parler à la génération Covid? Emmanuel Macron en direct sur le média social en ligne Brut. Analyse de fond et de forme dans le journal.
La campagne de vaccination pourrait débuter en janvier en France. Problème, les Français sont de plus en plus réticents à l'idée de se faire vacciner.
Strasbourg vit au rythme des mini-séismes depuis un an. Problème lié à l'activité humaine, une société de foragers pointée du doigt.
L'arrestation au Liban d'un témoin aussi gênant pour les uns qu'imprévisible pour les autres. Ziad Taqadine, interpellé dans le cadre de l'enquête sur le supposé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy.
Le début du championnat d'Europe féminin de handball. Au Danemark, les Françaises remettent leur titre européen en jeu avec quelques chances, nous le verrons, de le conserver.
La bourse de Paris finit en hausse de 0,6% à 5609 points.
5609 points. Et la météo, elle est un peu en dessous de 5609 points. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Toujours des vigiles pour cette fin de semaine. Attention,
oui.
Prudence.
Le département des Hautes-Alpes est placé en vigilance orange neige avec 80 cm de neige attendue dans le massif des Écrins. La Corse du Sud en vigilance orange pour les orages. Demain, la journée sera très agitée et hivernale. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On vient de passer les deux heures d'entretien. Le président de la République est donc allé chercher les jeunes là où ils sont censés se trouver, sur les réseaux sociaux et les médias en ligne. Emmanuel Macron a donc répondu aux questions des journalistes du média Brut. Jean-Rémy Baudot, que faut-il retenir de cette interview?
Eh bien, on retient d'abord que ça n'est pas fini. Déjà plus de deux heures d'interview. Et ça a commencé par une longue passe d'armes sur la question de la sécurité, sur les violences dans les manifestations, sur les violences liées à la police. Plus de 40 minutes sur ce thème. Emmanuel Macron a reconnu qu'il existait des violences par des policiers. Il y a des policiers qui sont violents et qu'il faut sanctionner, a-t-il dit. Et bousculé sur cette fameuse expression de violence policière, il dénonce un slogan, mais finit par endosser l'expression.
Est-ce que ce qui s'est passé dans ce studio le 21 novembre, ce sont des violences policières?
Pardon, ça s'appelle comment? Enfin, c'est ce qui a été filmé, j'ai vu les images,
dites-le,
oui,
parce
ça
que
s'appelle
ce,
comme ça.
Ce terme-là jusque...
Non, parce que, je vais vous dire pourquoi, oui. Ce terme-là, d'abord, il est politisé. Les Black Blocs, une partie de l'extrême-gauche qui veut la dissolution de l'État, a installé l'idée, ou veut installer l'idée, en quelque sorte, qu'il y a une violence consubstantielle à la police, comme d'autres disent, il y a un racisme consubstantiel à la police. Ça, c'est non. Je suis contre ça, d'abord parce que c'est pas vrai, mais non, c'est pas vrai. C'est faux, c'est une manipulation, et ça c'est quelque chose dont le but est d'affaiblir une institution républicaine.
Est-ce que c'est un tabou de dire le terme?
Parce que je peux vous dire, il y a des violences policières, si ça vous fait plaisir que je le dise. On ne va pas jouer ni oui ni non.
Voilà, on ne joue pas à ni oui ni non, mais au-delà de cette question d'actualité, le chef d'État a été longuement interrogé sur la jeunesse, ses préoccupations. Je vous livre rapidement quelques réflexions d'Emmanuel Macron. Sur l'immigration, l'histoire notamment coloniale, je cite, on a à finir le travail historique sur la guerre d'Algérie. Vous êtes une chance pour la République, lance-t-il plus tard aux jeunes issus de l'immigration. Quant à la situation sanitaire, sur la précarité à cause du Covid, il envisage une nouvelle aide exceptionnelle pour les jeunes. Enfin, sur la question écologique, sur la sortie du glyphosate, je n'ai pas changé d'avis, mais je n'ai pas réussi, dit Emmanuel Macron, qui réaffirme qu'il faut se tourner vers l'Europe. Et puis, piqué au vif sur cette question-là, il dit, personne n'en a fait autant sur l'écologie que nous en trois ans.
Merci. Rémy Baudot d'avoir été avec nous. Emmanuel Macron n'est pas le premier président à vouloir séduire un électorat qui ne vote pas ou peu. Ses prédécesseurs l'ont fait avant lui. On pense évidemment à François Mitterrand, on pense évidemment à Jacques Chirac, ce qui n'a pas toujours été couronné de succès. Cela peut même revenir comme un boomerang, Aurélie Herbemont. Pourquoi le président a-t-il choisi d'aller sur Brut?
Eh bien parce que les jeunes s'informent beaucoup moins via les médias traditionnels et préfèrent les médias en ligne comme Brut ou les réseaux sociaux. Et le chef de l'État a beau multiplier les allocutions solennelles sur toutes les télés à 20h depuis des mois, Ce n'est pas forcément là qu'il peut toucher ce public. Alors si les jeunes ne viennent pas à Emmanuel Macron, c'est lui qui va vers eux. Le chef de l'État l'avait déjà dit, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. C'est donc à cette génération Covid qu'il s'adresse aujourd'hui.
Cette génération qui a 20 ans aujourd'hui, comme je disais, qui vit le Covid et qui... Enfin, il faut mesurer ce qu'elle s'est pris. C'est la génération qui est née avec le terrorisme des tours, qui s'est pris l'une des plus grandes crises économiques et financières jusqu'à maintenant, en 2007-2008, qui a pris le terrorisme, qui est la génération qui a eu à connaître la conscience du drame climatique. Donc il y a quand même de quoi se poser des questions personnelles et géopolitiques. Mais elle n'est pas déboussolée, elle est en recherche de sens.
Alors le langage est parfois moins posé, beaucoup plus cash que dans les interviews traditionnelles, voire plus fleuri comme à ce moment-là où il parle des policiers.
Ce sont des gens dont les gamins sont emmerdés à l'école, pardon de parler comme ça. Où les enfants sont harcelés par les autres enfants, accusés parce que les parents sont policiers.
Mais sinon, sur le fond, le chef de l'État aurait tout à fait pu aborder ces sujets dans un autre média. Violence policière, immigration, climat, ça ne concerne pas que les jeunes. D'ailleurs, sur les comptes Twitter, Facebook et YouTube de Brut, ce sont environ 60 000 personnes qui suivent cette interview, ce qui n'est pas énorme, mais cette interview est diffusée en direct sur les 4 chaînes d'info en continu, relayée aussi par les autres médias, comme nous, ici à Europe 1. Et ça touche donc plus, beaucoup plus de monde que prévu à la base.
Ben oui, c'est QFD, on arrive à toucher tout le monde par conséquent.
Exactement.
Merci Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Le débat des grandes voix, on y reviendra notamment sur la prestation du président de la République. Ce sera à 18h30.
L'épidémie de coronavirus recule lentement. Un peu plus de 12 500 nouvelles hospitalisations, 326 morts en 24 heures. Mais le nombre de patients en réanimation continue de diminuer.
Alors se pose maintenant la question du vaccin. On connaît les détails de la campagne de vaccination. Les personnes âgées en EHPAD et les personnes fragiles qui les accompagnent seront prioritaires. Viendront ensuite l'ensemble des Français au printemps 2021. Et là, Ève Roger, les choses se compliquent. Car plus on se rapproche de l'échéance, plus les Français semblent méfiant vis-à-vis du vaccin anti-Covid.
Et oui, c'est une étude publiée aujourd'hui par Santé publique France. En juillet, les Français étaient 64% à dire qu'ils pensaient certainement ou probablement se faire vacciner. Et 4 mois plus tard, début novembre, patatras, ils ne sont plus que 53%, alors qu'on approche du but, vous l'avez dit. Que s'est-il passé entre ces deux sondages? Alors que pendant toute cette période, juillet-novembre, on a parlé assez peu du vaccin, les laboratoires n'avaient pas encore publié leurs résultats. Quelques éléments de réponse avec le docteur Isabelle Bonmarin de Santé publique France.
Même si on ne parlait pas énormément du vaccin, c'était quand même une réalité qui devenait un peu plus présente. Et c'est vrai que les Français sont assez inquiets sur le vaccin. Est-ce qu'on n'a pas été trop rapide dans sa fabrication? Est-ce que toutes les mesures de sécurité sont respectées? Est-ce qu'il va être efficace? Est-ce qu'il va être sûr?
Alors maintenant que plusieurs laboratoires ont annoncé des résultats assez spectaculaires, qu'on attend le feu vert de l'Agence européenne du médicament pour les vaccins Pfizer et Moderna, comment l'opinion va-t-elle évoluer? Tout est possible. Soit les Français sont rassurés par ces résultats positifs et le go des autorités sanitaires et la tendance peut s'inverser. Soit au contraire, ils sont effrayés par l'imminence de la vaccination, le manque d'informations ou le sentiment de précipitation et la courbe continuera à baisser. Réponse le 20 décembre prochain au 3e coup de sonde de Santé publique France.
Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1.
À Strasbourg, la terre a encore tremblé ce matin. Ce n'est pas la première fois, cela se répète si souvent ces derniers temps, que les soupçons se portent maintenant sur une entreprise de forage.
Et d'autant que les secousses 3,6 sur l'échelle de Richter au petit matin ont tendance à se produire au même moment, un peu comme le chant du coq. Sauf que tout se met à trembler dans les appartements. Le coupable semble désigner la société de forage qui effectue des travaux dans le sous-sol de la métropole strasbourgeoise. Bourgeoise. Fausse accusation, répète l'entreprise qui a voulu démontrer sa bonne foi, Arthur M. Bachet.
Le plus insupportable, disent les habitants de Reichstätt, juste au nord de Strasbourg, c'est la répétition ce matin, 11e et 12e séisme en un mois seulement, rappelle le maire Georges Schuller.
Il y a eu quelques dégâts, des bris de verre, des vitres cassées, quelques fissures aussi, mais où ça va s'arrêter? Ce matin, c'était quand même 3,7. Demain, ça va être quoi? Est-ce qu'on va attendre d'avoir les gymnases remplis de sinistrés? Je pense pas. Il faut qu'on arrête maintenant. Il faut dire stop.
Pour nous, ce n'est pas la fin du projet et ce n'est pas de toute façon la fin de la géothermie.
Fin de non-recevoir, signé Jean-Philippe Soulet, directeur de Fonds Roche Géothermie, qui gère le site responsable de cette série de tremblements de terre.
Bien évidemment, je comprends que la population ne soit pas contente. Et si j'avais été dans la population, j'aurais été moi-même pas content. On a des experts d'assurance qui sont dépêchés dès qu'il y a des réclamations, de façon à regarder avec les habitants. On prend en charge très rapidement les frais quand c'est effectivement établi.
L'installation va progressivement, sur quelques semaines, pour des raisons de sécurité, s'arrêter complètement. Ensuite, des analyses avant ou pas un redémarrage dans quelques mois peut-être. À plus court terme, Strasbourgeois, attention, on nous promet des répliques pour les jours à venir. Strasbourg, Arthur Henbaché, Europe 1.
Cette grosse saisie à présent, Christophe, de cannabis dans la région de Bourges. 650 kilos, c'est un record pour l'année 2020.
Oui, on parle de pollen de cannabis, Julien, et c'est effectivement la plus belle prise de l'année pour les douaniers. Ils ont intercepté le camion au péage de l'autoroute A71, provenance Espagne, direction la Belgique. La drogue était mal dissimulée au milieu d'une cargaison de textiles. Le chauffeur a été interpellé. L'enquête confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Bourges.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite de votre journal à 18h11 avec Christophe Lamar, l'un des principaux acteurs du supposé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, Ziad Takieddine, a été interpellé au Liban.
Oui, l'homme d'affaires aurait été arrêté en début de semaine à Beyrouth, hein, Guillaume Bier.
Oui, Ziad Takieddine, qui était en cavale depuis 6 mois, condamné à 5 ans de prison ferme dans l'affaire Karachi, il était en fuite lorsque le jugement a été prononcé le 15 juin dernier. Aucune trace de lui jusqu'à sa réapparition il y a un mois à Beyrouth pour un revirement complet dans l'affaire du présumé financement libyen de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. Dans une courte vidéo tournée par Paris Match, souvenez-vous, il affirmait le contraire de ce qu'il soutient depuis des années devant les juges, les enquêteurs et la presse, à savoir qu'il n'y aurait jamais eu de financement illégal. La vérité éclate enfin, avait aussitôt réagi Nicolas Sarkozy, qui a demandé donc sa démise en examen. Alors Ziad Takieddine, qui est impliqué au Liban dans une autre affaire financière, était justement entendu par la justice libanaise quand les autorités ont réalisé qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international délivré par la France. Il a donc été incarcéré pour le moment et il pourrait être extradé, ce qui permettrait au juge parisien de le questionner sur sa volte-face et surtout, il devra purger la peine de prison à laquelle il a été condamné.
Merci Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Le championnat d'Europe féminin de handball, elles sont tenantes du titre. Les Françaises ouvrent le bal ce soir face au Monténégro.
Oui, attention avec cette confiance tout de même. L'an dernier, elles avaient laissé leur couronne mondiale dès le tour préliminaire. Les Bleus sont prévenus, promis, l'échec est digéré. Mieux, Simon Rubin, c'est une équipe de France qui veut justifier son statut.
Oui, parce que même si les Bleus sont d'ores et déjà qualifiés pour les Jeux qui restent leur grand objectif à venir, elles n'ont absolument pas envie de revivre l'échec cuisant de l'année passée. Et vous l'avez dit, il y a une question d'orgueil, de fierté. Quand on est championne d'Europe en titre, on ne vient pas à l'Euro sans ambition. Les Bleus arrivent donc avec l'envie de gagner, en tout cas d'atteindre au moins les demi-finales, c'est ce qui est fixé. Elles arrivent aussi fortes des leçons du fiasco de 2019. En interne, on s'est organisé différemment, on a remis un peu d'ordre dans la manière de travailler, on a ciblé davantage les entraînements. L'idée, c'est avec un groupe de joueuses qui n'a pas changé radicalement, de retrouver la dynamique qui avait permis d'enchaîner la médaille d'argent aux Jeux de 2016, le Mondial 2017, l'Euro 2018. Et ça commence donc ce soir effectivement contre le Monténégro, une équipe que la France a battue récemment, mais qui promet quand même une belle opposition. En cas de victoire, les Bleus seraient bien lancés, idéal pour retrouver cette fameuse dynamique positive. En cas de difficulté sur ce premier match, ce sera alors un vrai test psychologique pour ces Bleus qui sont aussi en recherche de certitude à quelques mois des Jeux Olympiques.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
Merci Christophe. À tout à l'heure, 18h30 pour le rappel des titres et 19h pour le journal. La météo avec Anissa qui nous a rejoint. Un temps agité et perturbé pour ce début de week-end. Est-ce que ça va durer ?
Oui, ça va durer. Ah. Ça va durer, Julien. On part sur une période assez hivernale avec deux départements en vigilance orange. Les Hautes-Alpes, vigilance orange, neige, on attend près de 80 cm du côté du massif des Écrins. La Corse du Sud est placée en vigilance orange aux orages. Alors ce temps instable concerne demain les trois quarts du pays avec de nombreuses averses. C'est la façade atlantique qui sera la plus touchée demain avec ses fortes pluies. Sur la Normandie, les Pays de la Loire et le Poitou, attention, vous aurez droit à quelques flocons demain matin. Une neige qui ne tiendra pas en pleine. Il neige dès 500 mètres d'altitude dans le massif central. En Corse, nous aurons encore pas mal de pluie demain. Dans l'après-midi, il n'y a finalement que sur les Ardennes, la Bourgogne, la région parisienne, la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen que la journée sera agréable, au sec avec du soleil. Les températures, c'est le retour des gelées matinales avec moins 4 degrés en Auvergne demain matin, 1 à 9 partout ailleurs et 5 à 15 degrés dans l'après-midi.
Bon bah voilà, bon week-end sous la couette.
Bah vous allez faire des jeux de société.
Merci Annie.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invitée ce soir à 18h18, elle est membre du comité scientifique sur les vaccins Covid-19, professeur émérite d'immunologie à la Sorbonne Université. Bonsoir Brigitte Autran.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être en direct avec nous ce soir. On a beaucoup de questions à vous poser. Alors le Premier ministre Jean Castex a présenté hier en fin de journée la stratégie vaccinale de la France en 3 étapes. 1 million de personnes devraient donc être vaccinées dès le mois de janvier, principalement dans les EHPAD. D'abord, est-ce qu'en termes de logistique, ça vous semble réaliste ?
La logistique va être affinée avec les recommandations définitives des vaccins. Et donc, dans un premier temps, ça peut paraître logique de vacciner les personnes les plus fragiles et les plus exposées à des maladies graves liées au Covid.
Mais on est outillé pour conserver et acheminer ces doses vaccinales. Il faut deux doses par individu. On dit beaucoup qu'il faut les conserver à moins 70, moins 80 degrés. On sait faire ça?
Alors, pour un des fabricants, il faut le conserver pour l'instant à moins 70 degrés. Je crois que la France s'est équipée pour cela. Et puis l'autre vaccin doit être conservé seulement à moins 20 degrés, ce qui est un petit peu
plus facile.
C'est
celui de Moderna.
Voilà.
Alors, deuxième phase de vaccination, Brigitte Autran. 14 millions de personnes recevront le vaccin à partir du printemps. Ce sera 2 millions en février. Est-ce qu'on est prêt, là aussi, pour vacciner autant de personnes en si peu de temps? Parce que ça paraît un peu fou, quand même. Il y a encore quelques semaines, on attendait de savoir si un vaccin allait être disponible. Et maintenant, on nous dit, dans deux mois, il y a 15 millions de personnes qui sont vaccinées.
C'est un petit peu fou, mais le virus va encore plus vite que nous. Donc, on a intérêt, si on veut gagner la course, on a intérêt à aller plus vite que le virus. Donc, oui, il faut s'organiser. Ce qui est important à prendre en compte, c'est que les premières personnes qui vont être vaccinées sont les personnes à risque de faire des formes graves. Ces personnes-là vont consulter très fréquemment leur médecin. Et donc, la vaccination, le principe de la vaccination va réellement se faire autour du médecin et de façon assez simple, finalement. Après, la logistique, effectivement, est compliquée. Les firmes se sont engagées à livrer les vaccins le plus près possible du lieu de vaccination. Voilà, il y a une question d'organisation à mettre en place. Le gouvernement doit y travailler en ce moment.
Mais pour la phase 2 et la phase 3, c'est-à-dire 2 millions de personnes à peu près en février, 14 millions globalement au printemps, qui s'échelonneront sur les 3 mois du printemps, ce sera chez les médecins que ça se passera?
Alors ça, c'est très difficile de vous répondre précisément. Ce qui est clair, c'est que le médecin sera au centre du dispositif puisqu'il faut définir qui est à risque. Et à risque, ça veut dire définir une condition médicale.
Non, mais je vous pose la question parce que, un peu naïvement, on se dit que les médecins, ils vont être débordés. Ils ont les consultations classiques. Donc, et puis, ils vont devoir
médecin,
en plus vacciner
compte,
les personnes fragiles.
Ce qui
fragiles.
Compte, c'est que le médecin fasse la prescription de la vaccination et dise « Vous, vous êtes à risque, je vous conseille d'être vacciné. » Et donc, c'est la prescription qui est importante. Ensuite, la réalisation de l'acte. Cela pourrait se faire peut-être comme ça se fait pour la grippe dans d'autres endroits que chez le médecin.
Est-ce qu'on a de la visibilité sur les possibles effets secondaires de ces vaccins?
Alors oui, on a une visibilité à court terme pour l'instant, puisqu'on a 3 mois de recul à 6 mois de recul pour ces vaccins. Ce qui est rassurant quand même, c'est que les vaccins ARN, qui sont des vaccins d'un nouveau type, n'ont pas donné d'événements indésirables graves. Ils n'ont pas donné lieu à des arrêts des essais cliniques.
Mais on est capable de le voir en si peu de temps?
Oui,
parce qu'entre la phase 1 et la phase 3, il s'est passé quelques mois seulement.
L'essentiel des effets secondaires de vaccins surviennent dans les 15 premiers jours après l'administration des vaccins.
Oui.
Donc oui, on n'a pas une visibilité à l'échelle de milliards d'individus, mais il ne faut pas oublier qu'il y a jusqu'à 100 000 personnes dans les pays occidentaux qui ont été vaccinées.
Certaines voix disent, on l'entend parfois ici et là, nos seniors vont servir de cobayes pour ces vaccins. Qu'est-ce qu'on leur répond à ces gens-là?
Alors moi, je leur réponds que les cobayes, ce sont ceux qui ont accepté de participer aux essais cliniques.
Pendant les premières phases?
Pendant les premières phases, y compris la phase 3. Et il faut dire merci à ces cobayes. Car grâce à eux, nous avons des informations extrêmement précieuses sur l'efficacité, sur la sécurité de ces vaccins. Et donc, nous ne serons pas des cobayes.
Oui. Parce que c'est un des éléments qui renforce aussi la défiance d'une partie des Français vis-à-vis des vaccins. Habituellement, il faut 10 ans pour concevoir un vaccin. Là, en 8 mois, on a réussi l'impossible. Combien, par exemple, de délai il faut habituellement pour être certain qu'il n'y ait pas d'effet secondaire sur un vaccin?
Pas forcément plus que ce qui a été observé ici. Ce qu'il y a, c'est que généralement, on n'est pas dans une phase d'épidémie. Donc aujourd'hui, on est obligé d'aller vite pour faire face à l'épidémie.
Oui,
donc
mais on le fait pas au détriment
dans un
de la
vaccin
santé.
Autre, par exemple, le vaccin contre le papillomavirus, on a pris beaucoup plus de temps pour surveiller la persistance de la protection, l'absence d'effets secondaires. Ça a pris plusieurs années parce qu'on n'était pas dans un contexte d'épidémie aussi grave, importante qu'aujourd'hui.
Alors, ça nécessitera 2 injections, ce vaccin, pour chaque individu, à 3 semaines d'intervalle. Quel qu'en soit le fabricant et le laboratoire?
Non, pas exactement. Enfin, c'est 3 ou 4 semaines.
Mais ça fonctionne à peu près pareil.
Voilà.
Je vous pose la question parce qu'il y a la question de la durée de l'immunité du vaccin. Une fois qu'on est piqué et qu'on a sa deuxième dose, pendant combien de temps on est immunisé?
Alors aujourd'hui, on dispose d'un recul de au moins 3 mois. Donc on sait que les anticorps vont rester à des taux très élevés pendant au moins 3 mois. On sait aussi qu'au décours de l'infection naturelle, les anticorps vont persister au moins 6 mois. Les anticorps qui sont induits par les vaccins sont très proches de ceux que l'on voit dans l'infection naturelle. Mmh, mmh. Donc, il y a toute raison de penser tout de même qu'on aura une protection d'au moins 6 mois.
Au moins 6 mois.
On aura probablement plus. Aujourd'hui, on est à la limite de l'observation.
Ça veut dire, professeur, qu'une fois les 6 mois passés, il va falloir recommencer?
Non, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que pour l'instant, on a 6 mois de recul. Et à partir du moment où les personnes vont se faire vacciner,
oui,
les essais cliniques, de toute façon, continuent.
Oui.
Les patients qui sont entrés dans les essais cliniques vont être surveillés pendant 2 ans. Et les
laboratoires, on aura les réponses,
voilà,
au fur et à mesure de l'avancée des
vaccinations.
Alors, à ce stade, on ne sait pas si le vaccin empêche d'être contagieux. C'est une vraie question.
Oui, c'est
une vraie question. Parce que si demain 1 million de personnes est vacciné, ils sont peut-être toujours contagieux. Pour les EHPAD, par exemple, ça pose des problèmes, parce que si dans les EHPAD, un senior ne veut pas se vacciner, mais que tous les autres le sont, ils peuvent quand même être porteurs de la maladie.
Alors, c'est heureusement moins angoissant que cela. Ce qu'on sait, c'est que le vaccin protège contre la maladie, et la maladie sévère. Donc ça, c'est déjà un point très rassurant. Il est vraisemblable, mais pas encore prouvé, que ce vaccin pourrait protéger contre la transmission. Et ça, on n'a pas encore les informations, donc on ne peut pas l'affirmer.
Oui.
On n'a pas les données. Mais on va les avoir. On va les avoir.
Et on saura quand ça ?
Probablement pendant le premier trimestre.
Pendant le premier trimestre. 14 millions de personnes vaccinées au printemps, 2 millions en février, 1 million en janvier. Combien faudrait-il, dans un monde idéal, de personnes vaccinées pour vraiment stopper la circulation du virus ?
Alors, tout dépend du but. Si le but est simplement de désengorger les hôpitaux et qu'il n'y ait plus cet afflux de malades majeurs dans les réanimations, il est vraisemblable que vacciner 15 millions de la population suffira en France. Si vous voulez éradiquer le virus, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus du tout de virus, alors il faut vacciner tout le monde.
Il faut vacciner tout le monde.
Voilà. Mais on trouvera sans doute... En fait, cette maladie va probablement persister.
Si
on a des médicaments, si on a des vaccins, on vivra avec comme on vit avec les autres maladies.
Oui.
Ce qui compte, c'est arriver à maîtriser le risque.
Le gouvernement a annoncé 200 millions de doses commandées. Ça fait donc 100 millions d'individus vaccinés. Je rappelle qu'il faut 2 doses par individu. Ça vous semble suffisant au vu des besoins pour une première grande campagne de vaccination?
Oui, on est...
Parce qu'il y a de, il y a de la perte aussi dans la circulation du vaccin.
Voilà. On est environ 66 ou 67 millions d'habitants, donc je pense que ça suffit. Et effectivement, les flacons sont des flacons aujourd'hui multidoses. Et donc, on n'est pas sûr de pouvoir absolument utiliser les 10 doses d'un flacon. 10 doses.
Oui.
Et donc, c'est la raison pour laquelle il fallait commander un peu plus.
Est-ce qu'on est en retard? Ce sera l'une de mes dernières questions. Est-ce qu'on est en retard par rapport à nos voisins? Il y a beaucoup de gens qui commencent à dire « Regardez les Allemands, regardez les Britanniques, regardez les autres, ils sont en avance sur nous et nous, on commence juste à réfléchir du fonctionnement de cette campagne de vaccination. » Est-ce qu'on est en retard, professeur?
Alors, la réponse est non. Les Anglais ont décidé d'aller très vite. Mais je vous rappelle que les Américains ont décidé de ne pas aller plus vite que nous. Les Allemands sont absolument au même stade que nous, c'est-à-dire qu'ils suivent le processus européen comme nous. Ils ont leur propre capacité d'organisation de la logistique de la vaccination, donc ça, chaque pays en est maître.
Les Chinois sont très en avance. 600 millions de personnes qui vont être vaccinées dans les prochaines semaines.
Il faut tout de même dire qu'on n'a pas d'informations très claires sur l'éthique de la vaccination en Chine.
Bien. Merci infiniment, professeur Brigitte Autran, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du comité scientifique sur les vaccins Covid-19. Merci à vous.
Merci, enfin. Europe Soir, le 18-20,
Julien Bugier. Le rappel des titres avec Christophe Lamarre à 18h30.
Gare à l'excès d'optimisme, l'arrivée prochaine de plusieurs vaccins anti-coronavirus ne signifie pas zéro Covid, prévient l'Organisation mondiale de la santé. Les syndicats de journalistes demandent officiellement à être reçus par le président Emmanuel Macron à propos de la loi sécurité globale dont ils réclament le retrait. Des manifestations sont prévues demain dans 80 villes, dont Paris. 590 €, c'est le gain moyen enregistré par les Français cette année grâce à la suppression de la taxe d'habitation. On parle bien sûr de gain par foyer fiscal. Il s'agit d'une moyenne, il existe donc de grandes disparités d'une ville et d'un département à l'autre. Elle a souvent été la vedette de films ou de romans policiers. Un exemplaire de la machine Enigma a été retrouvé au fond de la mer Baltique au large des côtes allemandes. C'est grâce à elle que les nazis et leurs alliés codaient les informations secrètes pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le Stade Rennais, l'Olympique de Marseille réfléchit à son tour à la possibilité de poursuivre ses assureurs en justice. Le club de football souhaite obtenir une indemnisation des pertes financières liées aux conséquences de la crise sanitaire. Et puis l'ouverture du championnat d'Europe de handball, les Françaises remettent leur titre en jeu ce soir. Premier match du tour préliminaire face au Monténégro. Et après un quart d'heure de jeu, c'est le Monténégro qui mène 4-3.
Bien, merci Christophe. À tout à l'heure, 19h. Un coup d'œil au temps avec Anissa qui nous a rejoint. Des vigilances neige et orage actuellement sur une partie de la France.
Oui, le département des Hautes-Alpes est placé en vigilance orange neige puisqu'on attend entre 50 et 80 cm de neige fraîche dans le massif des Écrins. En Corse du Sud, là aussi, vigilance orange, cette fois-ci pour orage, pluie, inondation. Une vigilance maintenue cette nuit et demain. Les pluies seront soutenues et orageuses sur l'île. Demain, tout le long de la façade atlantique, de la Normandie au Pays Basque, le temps est pluvieux avec des flocons demain matin du côté des Pays de la Loire. Le vent souffle aussi fort sur la façade atlantique jusqu'à 90 km/h. Vous l'avez compris, demain sera une journée très agitée, hivernale. Il n'y a qu'en région parisienne, Bourgogne, vallée du Rhône et bassin méditerranéen que le temps sera sec et ensoleillé. Les températures froides, elles redescendent encore demain matin avec moins 4 degrés en Auvergne et 5 à 15 degrés demain au meilleur de la journée. C'est en Corse qui fera le plus doux.
Bien, comme souvent.
Sous les nuages et la pluie.
Un grand salut à Mickaël, à nos amis corses d'ailleurs. Merci Anissa,
à tout à l'heure,
19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, le débat des grandes voix du vendredi avec ce soir à mes côtés Catherine Ney. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Julien.
L'historien Jean Garrigue. Bonsoir Jean.
Bonsoir Julien.
Et Eric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express. Bonsoir,
bonsoir
Eric. Alors on va revenir évidemment ensemble ce soir sur cette interview du chef de l'État sur le média social brut. C'était à 16h et ça s'est terminé il y a quelques instants à peine pour évoquer les sujets du moment à destination des jeunes. Les 18-30 ans, nous dit-on. On écoute d'abord un premier extrait de cette interview du président de la République sur la question des violences policières.
Est-ce que ce qui s'est passé dans ce studio le 21 novembre, ce sont des violences policières?
Pardon, ça s'appelle comment? Enfin, ce qui a été filmé, j'ai vu les images, oui,
parce que
ça s'appelle comme ça.
Ce terme-là jusque...
Non, parce que je vais vous dire pourquoi. Oui. Ce terme-là, d'abord, il est politisé. Les Black Blocs, une partie de l'extrême gauche qui veut la dissolution de l'État, a installé l'idée, ou veut installer l'idée, en quelque sorte, qu'il y a une violence consubstantielle à la police, comme d'autres disent, il y a un racisme consubstantiel à la police. Ça, c'est non. Je suis contre ça, d'abord parce que c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. C'est faux, c'est une manipulation, et ça, c'est quelque chose dont le but est d'affaiblir une institution républicaine.
Est-ce que c'est un tabou de dire le terme?
Parce que non, je peux vous dire, il y a des violences policières, si ça vous fait plaisir que je le dise. On va pas jouer à ni oui ni non.
Voilà, on ne va pas jouer ni oui ni non. Alors ce qui est intéressant, c'est que pendant ces 2 heures, même un peu plus d'entretien, Emmanuel Macron a fait du Emmanuel Macron. Il est resté sur le fil. C'est assez intéressant, on va en parler, avec beaucoup de « en même temps ». D'abord, je voudrais vous interroger sur le style de cette interview. Qu'en avez-vous pensé, Catherine Ney?
Mais moi d'abord, j'ai été un peu assommée par ce flot de paroles, parce que ça durait longtemps et c'était sur un... Vous voyez, il a parlé recto tono, sans... ça c'était pas ses discours quand il met un peu d'emphase ou... emploi des formules éthérées. Là, c'était vraiment un dialogue précipité, comme il était avec les maires. Vous savez, quand il faisait son one-man show avec les maires et qu'il s'interrogeait lui-même et répondait et parlait 7 heures durant. Là, j'ai trouvé que il y avait des bons moments, mais je trouve que pour moi, au bout d'un moment, j'avais envie de sortir, respirer. Je trouvais que c'était une avalanche de mots qui m'a beaucoup... Je trouvais ça fatigant. Alors peut-être c'est le soir, je ne sais pas. Et je voudrais savoir si les téléspectateurs ont été nombreux devant la télévision pour suivre ce débit. Surtout qu'en ce moment, on n'est pas privé de parole présidentielle. Oui. Voyez, donc tous les jours, il y a quelque chose. Et là, je trouve que...
Il y a la télé et puis les réseaux sociaux. On verra quelle sera l'audience sur les réseaux sociaux parce que c'était aussi ça l'enjeu. Jean Garrigue, même question. Le côté discussion décontractée, est-ce que vous avez trouvé ça ennuyeux, un peu plutôt frais ou au contraire complètement décalé?
J'irai pas jusqu'à frais parce qu'au fond, ce n'est pas la première fois. Je crois que c'est la 7e ou 8e fois qu'Emmanuel Macron s'adresse à cette tranche d'âge sur des sites comme TikTok, soit Snapchat, enfin plein de sites que moi je ne connais pas. Est-ce que je suis déjà...
Mais il y avait un côté moins institutionnel dans la manière de l'échange.
Alors, ça, j'ai trouvé malgré tout qu'il a réussi quand même, comme vous le disiez très, très, très justement, à rester un peu sur un équilibre entre ses convictions et ce qu'il représente aussi en tant que président de la République, et puis un dialogue plus clair, plus à mots ouverts avec ce qu'attendent une partie des jeunes, sachant qu'il y a un petit paradoxe, c'est qu'au fond, il était interrogé par des gens qui ne sont pas des 18-30 ans, qui ont un peu passé cet âge, sauf la jeune femme qui la jeune journaliste, mais donc il n'était pas interrogé véritablement.
Buzyn, je ne suis pas sûr qu'il ait plus de 30 ans.
Ah bon, oui. Bon, bref, il est un peu, en tout cas, oui. Il est à la limite, et peu importe d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'échos de ceux qui regardaient, qui envoyaient des tweets, etc. Donc ça, c'était plutôt quelque chose de réussi. J'ai trouvé quand même qu'il s'en est globalement pas mal tiré, qu'il est resté lui-même tout en étant proche de...
C'est-à-dire qu'il n'a pas été démago.
C'est vrai. Ouais, votre avis, Éric Scholz, si l'exercice était d'être en prise directe et de parler aux jeunes, est-ce qu'il a réussi cet exercice-là?
Moi, je trouve qu'il l'a vraiment réussi et que ce n'était pas si facile. Mais il a eu... Pour une fois, j'ai trouvé qu'il n'était pas tellement dans la posture. C'est-à-dire qu'il a su... à s'adresser assez honnêtement et répondre à des questions qui étaient... Il les attendait, ces questions. Il les avait bien préparées, il les avait extrêmement bien préparées. Mais c'était un style que je ne qualifierais pas de décontracté, mais pas du tout institutionnel, beaucoup moins institutionnel que ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, ça veut dire qu'il peut se... Voilà, les violences policières, il faut trouver la bonne façon de répondre. Il sait qu'il va être attendu là-dessus. Il n'était pas démago. Il a néanmoins profité de ces moments, de ces longs moments pour faire quelques annonces. Donc, il n'est pas venu les mains vides. Il a aussi fait acte de compréhension envers les jeunes. On l'a vu à plusieurs reprises, que ce soit sur la crise sanitaire, que ce soit sur la question de il a fait preuve, je dirais, c'est pas très fréquent chez lui, mais d'humilité à plusieurs reprises. Donc, en ce sens-là, j'ai trouvé que l'exercice, qui n'était pas le plus facile à réussir, il l'a réussi vers une population... ça va être découpé tout ça. C'est déjà sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas le voir comme une sorte de linéarité.
Exactement.
Mais ça va être par séquences qui sont...
Et par thématique.
Avec des dizaines de milliers de commentaires immédiatement sur Facebook et ailleurs.
Hein. Alors, on va parler du fond dans quelques secondes après la forme. 18h38, vous restez avec nous, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
18h40, la suite du débat des grandes voix du vendredi avec ce soir Catherine Ney, l'historien Jean Garrigue et Éric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express. Et on continue d'évoquer cet entretien assez inédit du chef de l'État sur le média social brut à destination des jeunes. Alors, on évoquait la forme, on va rentrer dans le détail sur le fond. Le président a aussi fait amende honorable sur tout un tas de sujets et admis avoir échoué sur l'immigration, sur les violences policières, mais aussi sur les discriminations. Je vous propose de l'écouter.
Malgré mes engagements en début de quinquennat, parce que c'est un engagement que j'ai pris comme président, qu'on puisse mieux héberger, accueillir, on n'y est pas encore. Pourquoi ? Parce que la pression migratoire continue et qu'on a un vrai sujet de ce côté-là. Après, vous avez soulevé un problème qui est très important, celui des discriminations. Et ce problème, on ne l'a pas réglé. Malgré mes engagements, je suis obligé de le constater. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé.
Ça faisait partie de l'exercice, Éric Scholl, de dire « voilà, j'ai pas tout réussi, j'ai un peu échoué ». Ça fait le président qui est humble quand même.
C'est cette côté humilité, elle est forcément un peu calculée. C'est-à-dire que ça lui met à un peu plus d'un an de la présidentielle, ça le met en capacité à la fois de constater, de tirer un bilan, de se dire « il y a des choses qu'on peut améliorer » et de dire « voilà, il me reste du temps pour les améliorer », voire en me représentant, aller plus loin sur ces thématiques, et en particulier sur cette thématique qu'on a vue, qui est très présente depuis plusieurs mois dans les sujets de société, notamment celle du racisme, la discrimination.
Oui, Jean Garrigue. Il faut quand même voir que cette question du mépris du président Autain, etc., c'est un enjeu d'image et de communication majeur, surtout pour les jeunes, parce qu'il a cette image justement de quelqu'un qui est coupé des réalités, qui ne comprend pas ce que pense son peuple. Et là, pour le coup, on peut dire qu'il était vraiment très, très à l'horizontale, très à l'écoute, en employant des mots qui étaient très simples. Il ne nous a pas remis c'est un petit peu ses sauces un peu en poulet parfois qu'on trouve dans son discours. Là, il était très direct et il était dans quelque chose de nuancé et dans l'aveu de ses échecs. Ça, c'est assez rare en politique de faire des aveux. Bon, Sarkozy le faisait aussi à son époque, François Hollande l'a fait à la fin de son mandat, mais là il nous dit sur la violence il y a encore plein de choses à faire, sur l'immigration j'ai échoué, oui. Donc tout ça
c'est intéressant ce que vous dites,
et à plusieurs reprises il dit aidez-moi, oui. Qui est aussi qui ressort du vocabulaire d'une forme de faiblesse et d'un effort collectif.
Et voilà. Ça résonne par rapport au baromètre d'Oxa Tensu Consulting pour le Figaro qui est paru ce matin, où globalement on s'aperçoit, d'ailleurs c'est un peu contre-intuitif, on s'aperçoit que les 18-24 ans sont plutôt ceux qui expriment le jugement le plus positif sur son action. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, en revanche, son image à Emmanuel Macron reste globalement négative parce qu'il est vu par une majorité de Français pas proche des gens. 71% des Français disent ça, et pas humble. 74% des Français le disent. Catherine Ney.
Mais oui, parce que c'est toujours le problème des chefs d'État qui sont des conceptuels et qui sont très intelligents, peut-être trop, et qui ont une... qui ne sont pas... Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vers les gens, mais il n'a pas, il n'incarne pas une familiarité, il n'a pas des gestes de familiarité, il a une tenue, il a un parler. Bon, et puis, c'est peut-être qu'elle faut, comme disait... Un député, c'est peut-être parfois trop intelligent pour la masse. Enfin, je ne sais pas, vous voyez. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui veut, qui a le, on sent qu'il a l'envie de réussir et de s'expliquer. Et ce que j'ai trouvé très, très courageux, là, c'est ce qu'il a dit sur les migrants. En disant, dans le fond, qu'il défendait toujours le droit d'asile, mais qu'il dénonçait le droit d'asile détourné pour favoriser l'immigration illégale. Oui. Et ça, il dit, on a un gros problème. Et c'est vrai que tous ces gens qui arrivent, dont on ne sait pas les loger, il dit, bah avant de les déloger de l'endroit où ils sont, sous les ponts, mais faut être sûr d'avoir le nombre de locales pour les recevoir, ce qui n'était pas le cas l'autre jour. Mais il dit bien à ces jeunes que les tentes qui étaient sur la place, il fallait les enlever, à la fois parce que c'est la République ne peut le tolérer, il fallait aussi défendre les riverains qui ne le supportent pas, mais il dit bien qu'avant d'évacuer, il faut avoir des solutions d'hébergement. Aujourd'hui, l'hébergement d'urgence pour l'immigration illégale, le coût, c'est 2 milliards d'euros par an.
Oui, il a rappelé le chiffre.
Ce qui est quand même énorme.
Alors,
donc, on voit que c'est un puits sans fond. Il ne dit pas comment il peut y mettre un terme, aucun pays ne peut y mettre un terme.
Il y a un élément sur lequel il a quand même plié le match, c'est l'article 24, écoutez-le.
Ce sont des parlementaires qui proposent ce texte. Ils l'ont voté en première lecture. D'abord, il faut laisser vivre sa vie démocratique. On est dans une démocratie, ce n'est pas l'indignation de chacun qui fait les lois. Donc ce texte, maintenant, il va aller au Sénat. Et il reviendra à l'Assemblée. Et à ce moment-là, ils pourront réécrire et continuer à se nourrir aussi d'un vrai débat démocratique sur comment, justement, on traite de ces sujets de violence, du fonctionnement de la police dans une société où on doit préserver toutes nos libertés et réduire la violence.
Voilà, il faut laisser le texte vivre sa vie, mais on comprend très bien qu'en l'état, l'article 24 ne sera pas adopté comme ça devait être le cas.
C'est à croire que Gérard Larcher l'a appelé juste avant son interview, parce qu'il a entendu ce qu'était la revendication légitime de la deuxième chambre, c'est-à-dire qu'un texte qui passe en première lecture à l'Assemblée, ensuite il va au Sénat, il appartient au Sénat de l'amender, il revient et en deuxième lecture il y aura encore des modifications. Donc il met en retrait l'exécutif qu'on avait trouvé trop intrusif dans cette affaire et il laisse le législatif faire son travail.
Éric Scholl.
Oui, d'une certaine façon, il met fin, enfin il éteint la polémique. Cette polémique, elle s'est emballée à la fois parce que l'exécutif a sûrement... Enfin, il y a eu des prises de position qui n'étaient pas partagées par l'ensemble de l'exécutif, notamment par... Il y a eu ensuite cet aller-retour entre le parlementaire et qui s'est senti un peu lésé et l'exécutif. Et puis, il y a eu cette volonté après de dire on va monter cette commission en disant attendez, est-ce que c'est une commission indépendante ou est-ce que c'est au Parlement de faire son travail? Donc là, au moins, la balle revient vraiment dans le camp du Parlement. Et au fond, on a bien compris que cet article 24, il a été largement dégonflé. C'est une façon de mettre fin à une séquence qui a duré 10 jours, 15 jours, ou qui était un vrai risque pour son image, pour l'image du gouvernement, en termes de... et sans doute, il l'a perçu. Et en ce sens-là, cette émission, elle est aussi très, très, très politique, bien sûr.
Oui, mais fort opportunément, il a déjeuné avec le président Larcher il y a quelques jours. Donc là, voilà...
Le Premier ministre Jean Castex a réussi à se mettre à dos les deux chambres, y compris sa majorité. Ça a dû marquer les esprits. 18h46, on continue d'en parler dans quelques secondes. Et puis on entendra aussi, à tous les trois, votre coup de griffe ou votre coup de cœur de la semaine. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec toujours le débat des grandes voix du vendredi, Catherine Ney ce soir à mes côtés, l'historien Jean Garrigue et Éric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express. On continue de débriefer l'interview du chef de l'État sur le média social brut. Ça a duré plus de 2 heures à destination des jeunes. Et le chef de l'État est notamment revenu sur la question de la laïcité.
Nous avons aujourd'hui une situation qui donne le fait que quand une jeune fille va dans une émission chanter avec le voile, elle est conspuée et elle doit partir. Ménel. et que quand vous avez une jeune fille qui critique l'islam sur les réseaux sociaux, elle est harcelée et elle ne peut même plus être dans une école. Mila. Ça veut dire qu'on est devenu fou. C'est ça le sujet. Et que les gens ne respectent pas un principe fondamental de la République, qui est ce qu'on appelle la laïcité, c'est-à-dire le fait que vous pouvez en France croire ou ne pas croire librement, que la seule chose que je vous demande, c'est de respecter totalement les lois de la République.
Très intéressant, car on est sur le fil. Sur le fil de la laïcité, ni dans un extrême, ni dans l'autre, mais sur le fil. Est-ce que ces propos-là, dans une société éclatée comme la nôtre, Catherine Ney, c'est entendable ?
J'espère. J'espère que ça l'est, parce que là, il passe juste sur la crête sans tomber. Voilà. Il fait une analyse. C'est vrai que Mila, c'est insupportable. Et puis, je veux dire, une jeune fille qui vient avec un voile, mais... Est-ce que la télévision, c'est un lieu public ou pas? Vous voyez, ça peut se discuter aussi. Vous voyez,
ce qui met en avant, c'est l'hystérie que ça suscite.
Mais c'est vrai que ça... Bon. Donc, il a raison de dire qu'on est chez les fous, que c'est de l'hystérie.
Est-ce qu'il vous a convaincu sur toute la partie autour de la laïcité? Parce que c'est vrai qu'il y a une échéance importante la semaine dernière, ce sera mercredi, présentation du projet de loi sur le séparatisme, qui a changé de nom, mais globalement, c'est la même intention.
Plutôt.
Oui, plutôt. Jean Garrigue.
Et moi, c'est presque le passage où il m'a le plus convaincu. Oui. Parce qu'il trouve en quelques mots une définition la plus juste, et je dirais historiquement la plus juste, de ce qu'est la laïcité. Il rejette tous les débats entre les laïcars, la laïcité absolue, la laïcité à mi-chemin, etc. Il est dans la définition qui est au fond une liberté. Une liberté d'exercer et de penser, d'avoir une religion. Mais en même temps, la seule barrière, c'est les lois de la République. Ce qui veut dire, par exemple, que porter le voile en accompagnant les enfants à l'école, pourquoi pas ? Parce que ça, c'est pas interdit par les lois de la République. Oui. Donc, mine de rien, il donne une définition simple et finalement, sans démagogie, moi, je trouve que là sur ce plan-là, il est parfait. Là.
Éric Scholl.
Oui, au fond, il a amélioré sa communication sur ce thème, puisqu'on se souvient, il avait fait ce discours qui était très attendu. C'était le discours des Mureaux, il y a quelques semaines, sur, à l'époque, on appelait encore la loi sur le séparatisme. Hein, il préparait les esprits et qui était assez mal passé, en particulier chez les jeunes, où il n'avait pas réussi à bien se faire comprendre. Depuis, il y a eu beaucoup de choses, des événements dramatiques comme l'assassinat de Samuel Paty. Et donc, à plusieurs reprises, il s'est exprimé. On a vu d'ailleurs à quel point il avait du mal à se faire comprendre à l'étranger. Mais aussi en France, notamment en partie auprès des jeunes, et c'est ce qu'il a essayé de faire aujourd'hui. Et il trouve les mots qui ne sont pas forcément les plus faciles, parce que c'est un exercice intellectuel compliqué de comprendre la laïcité, de trouver les mots simples pour l'expliquer.
Oui. Non, puis il a évolué sur sa pensée. On se souvient quand il était ministre de l'économie, il s'était opposé à Manuel Valls, il avait dans l'idée que le problème de l'intégrisme, c'était un problème économique. Alors, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il a redéveloppé cet argumentaire-là en disant « on peut expliquer... mais il ne faut pas excuser. Voilà. » Et là, on a senti aussi qu'il était sur la ligne de crête, Catherine Ney.
Non, mais toute la question, c'est combien de jeunes l'ont écouté ? Combien y a-t-il de questions, de réactions, et la teneur des questions et des commentaires ? C'est ça qui est intéressant.
Bon, on verra dans les jours prochains, parce qu'il y a beaucoup de consommation a posteriori, catch-up, comme on dit. Oui. Alors, il nous reste quelques secondes. Coup de griffe, coup de cœur de la semaine. Qui veut commencer ? Éric Scholl.
Ouais, un coup de griffe, alors c'est Viktor Orban. C'est un peu facile, mais quand même, Viktor Orban.
C'est ce que j'avais choisi.
Viktor Orban aujourd'hui, parce qu'encore une fois, il s'est montré totalement inflexible. Vous savez, on a un plan de relance il ne manque plus que deux voix, en fait, celle de la Pologne et celle de la Hongrie. Et Viktor Orban, qui est le Premier ministre hongrois, la Pologne a commencé à dire hier qu'elle était prête à faire un compromis pour qu'enfin on adopte ce plan de relance. La Hongrie, le Premier ministre hongrois a dit non, il ne veut pas, il bloque tout. Et on sait bien à quel point ce n'est plus possible. À un moment, il va falloir que l'Europe dise... Monsieur Orban, on n'a plus besoin de vous dans l'Union européenne si vous restez sur cette façon, sur ce blocage, c'est inacceptable.
Il faut dire qu'il a vu rouge cette semaine, il a un de ses proches qui s'est fait prendre la main dans la confiture
d'une partie
fine à Bruxelles.
On dit aussi que le Parlement européen remet un peu de l'huile sur le feu en accusant la Hongrie d'avoir dans sa constitution interdit le mariage homosexuel et rejeté le mariage homosexuel. Et ça revient beaucoup et ça irrite beaucoup Monsieur Orban. Alors justement, de voir que celui qui a écrit en partie la Constitution et qui prônait le mariage uniquement hétéro soit pris à Bruxelles dans une partie fine, dit-on, où il était nu avec 30 hommes. Évidemment, pas de papier. Bon.
C'est ce qu'il a éventuellement le droit de faire.
Comment ?
Mais c'est en plein Covid aussi.
Oui,
c'est-à-dire que tous les aiguillements s'accumulent.
Oui, c'est ça.
Et en pleine contradiction.
Donc hypocrisie. Donc, je pense que la colère d'Orban est peut-être aussi...
Moi, je ne vais pas être original du tout, parce que mon coup de cœur, il est pour le couple Giscard d'Estaing. C'est-à-dire que Valéry Giscard d'Estaing, président finalement maltraité et inconnu, des Français aujourd'hui, dont le travail et l'œuvre, notamment en matière de construction européenne, a été à mon avis fondamental, et qui aujourd'hui est passé un petit peu dans les oubliettes. On ne retient que le moment où il s'en va en disant au revoir. Mais aussi Anémone Giscard d'Estaing, non pas que c'est été un couple exemplaire, loin de là, les infidélités de Valérie Follamour étaient proverbiales, mais elle a été fidèle, elle a toujours été effacée et en même temps elle joue un rôle très fort,
beaucoup plus fort qu'on ne le croit.
Oui. Et je voulais rendre hommage à cette femme qui a perdu son époux.
Donc,
et qui fait partie
cœur.
Aussi, voilà, double coup de cœur pour les Giscard.
Eh bien, merci à tous les trois d'avoir animé avec moi ce soir le débat des grandes voix du vendredi. Merci. 18h56, on se retrouve dans quelques secondes, le journal. Et puis le débat, faut-il interdire les véhicules hybrides ? Vous comprendrez pourquoi, tout de suite.